J'aimerais vous poser une question à ce propos. Pourquoi est-ce devenu démodé de raconter une histoire, une intrigue ? Alfred Hitchcock, entretien avec François Truffaut. Toute la littérature, sans exception, se divise en romans d'amour et en romans policiers. Citez-moi n'importe quel titre et vous verrez qu'il s'agit soit d'une enquête sur la violation d'un tabou, donc d'un délit, soit d'une histoire d'amour. Manuel Vasquez Montalban, entretien avec Lucia Iglesias Kuntz. Fragment d'un dictionnaire amoureux. Nos voisins méditerranéens ne font pas de distinction entre roman noir et roman policier et fusionnent les deux genres en novella negra en Espagne ou giallo en Italie, ce qui correspond assez bien à ce que j'appelle génériquement le polar. Voilà pour le titre. Pour le reste, autant prévenir tout de suite, et j'espère que vous écoutez cet extrait avant d'acheter, les amateurs de définitions maîtrisées, de monographies exhaustives, d'analyses thématiques, etc. seront déçus. Ils trouveront ailleurs d'excellents ouvrages, j'en cite quelques-uns un peu plus tard, qui répondront à leurs attentes. C'est à un écrivain que l'éditeur a confié ce dictionnaire amoureux, je parlerai donc ici en romancier et en lecteur. Il y aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables, c'est inévitable. C'est un dictionnaire de ce que j'aime, et encore n'ai-je pas pu mettre tout ce que j'aime. Le thésaurus d'un dictionnaire comme celui-ci répond à une alchimie assez étrange qu'on appelle communément le pifomètre. Ainsi, on trouvera Denis Lehane, Petros Markaris ou Joseph Incardona, mais pas Michael Connelly, Nick Toschies, Yishe Sarid ou David Goudis. Cela ne veut évidemment pas dire que je ne les aime pas. Chaque lecteur à ma place serait arrivé à un résultat similaire. On l'imagine sans peine. Un ouvrage comme celui-ci ne se rédige pas d'une traite en quelques jours. Certaines entrées sont donc bien plus anciennes que d'autres. J'ai choisi de ne pas revenir en arrière. Vouloir les compléter avec les éventuelles nouveautés m'a semblé artificiel. Ce dictionnaire n'est rien d'autre qu'une photographie de mes goûts en la matière à un moment donné. Lorsque je lis un dictionnaire amoureux, rien ne me fait plus plaisir que de découvrir des choses que je sais déjà. C'est un peu comme pour le Nobel de littérature, hein, le jour de la proclamation, quand il s'agit de quelqu'un dont je connais le nom, j'ai l'impression d'être cultivé. J'espère que ce dictionnaire amoureux réservera à l'audio-lecteur quelques-unes de ses satisfactions, mais aussi quelques surprises, quelques découvertes, et l'envie de lire et de relire cette littérature majeure qui, quoi qu'on en dise, reste durablement marquée par le prosaïsme de ses origines. Totalement subjectif, l'on a rendu à ce discours sa personne fondamentale qui est le « je », sans prétention à l'exhaustivité, je crois que les fragments d'un discours amoureux, 1977, peuvent être considérés comme l'ancêtre des dictionnaires amoureux. Puisqu'ils correspondent très exactement à mon projet, je reprends donc ici, à la lettre, l'exergue de Roland Barthes. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit. 99 notes avant le polar. Ne perdons pas de temps. Puisqu'on reproche au polar ses abus de stéréotypes, clichés, poncifs, lieux communs et autres truismes, commençons par ça. Par un texte de 76 pages intitulé « Avant le polar, 99 notes préparatoires à l'écriture d'un roman policier ». Les grandes heures de l'Oulipo m'ont enchanté. Mon deuxième roman, « Robe de mariée », repose sur une trame proposée par Georges Perec dans le compendium de la vie mode d'emploi, le diplomate criant vengeance pour sa femme et pour son fils. Je continue de regarder les travaux de l'Oulipo avec affection et souvent admiration. Le roman policier étant un genre codé, personne n'était mieux placé qu'un membre éminent de cette noble institution pour l'autopsier. C'est le président Paul Fournel qui s'y est collé. Selon moi, un auteur qui fut président de la Société des gens de lettres et de l'Oulipo mérite le titre de président à vie. Ces notes préparatoires à un futur polar sont un jubilatoire recensement des stéréotypes du genre qui passent, bien sûr, par l'enquêteur. Note 36, Wallander est dépressif, Maigret est bougon, Sherlock Holmes est barré sans Antonio Maran. Lui, il est simple flic de quartier et il prend des notes. Seront ainsi passées au crible de ses réflexions l'attaque du roman, son intrigue, l'environnement de l'action, la recherche documentaire, les épisodes de l'enquête, etc., jusqu'à constituer une sorte de polar mode d'emploi, au point que des lecteurs l'ont pris au premier degré. Certaines notes ne font que quelques lignes et ne sont pas utiles, c'est un peu dommage à regretter l'un d'eux. Fournel fait parfois mal là où ça gratte. Si ce polar doit faire un téléfilm un jour, ou mieux encore une série, il est indispensable de mettre un personnage noir ou un handicapé. L'ambition est évidemment que ces notes constituent une véritable intrigue, que la préparation devienne narration, une certaine forme de roman policier. Ironie ou ressemblance accidentelle, la couverture rappelle les ailes de cygne du Quatuor du Yorkshire de David Peace et le meurtre de départ, une fille retrouvée morte dans un parc, on notera la présence de la petite culotte, celui de Jennifer dans Ledlow de William McIlvaney. On pourra aussi consulter avec profit le livre de Henrik Lange, Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer, qui fait l'inventaire des fadaises et des inepties indispensables pour démarrer. Vous y trouverez notamment un recensement très pratique des scènes nécessaires à votre roman avec des exemples tirés de Lev Persson, Camille Läckberg, Astrid Lindgren ou Henning Mankell. Si vous êtes un aspirant polar 2, avec Fournel et Lange, vous voilà équipé. Introduction. Sans crainte d'apparaître banal ou académique, je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer par le commencement. Brève histoire du polar. Au début était le roman policier. Un roman d'énigmes dont le but consistait à jouer avec le lecteur, chargé de suivre une enquête à partir des éléments proposés, avec plus ou moins d'honnêteté, par l'auteur. La question était de savoir qui avait fait le coup, raison pour laquelle on a qualifié le genre de « wooden it » en anglais « who has done it » qui a fait le coup. D'Agatha Christie à Rex Stout, le genre s'est développé de la fin du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale et il a produit, quoi qu'on en pense, quelques romans excellents, sauf si on déteste ça, comme « Les Dix Petits Nègres » 1939. Il a connu de nombreuses déclinaisons, la plus radicale étant sans doute l'énigme en chambre close qui porte le mystère à son acmé puisqu'il s'agit, en théorie, d'un meurtre impossible à réaliser. L'assassin, pour faire court, ne peut pas être entré dans la pièce. Le mystère de la chambre jaune, 1907, de Gaston Leroux ou la chambre ardente, 1937, de John Dixon Carr en constituent de bons spécimens. Autre déclinaison célèbre, l'Inverted Tale, ou crime inversé. Le lecteur connaît le coupable dès le début, et la question est de savoir de quelle manière l'enquêteur finira par en apprendre autant que lui. Le genre, inauguré par Richard Austin Freeman, a produit des chefs-d'œuvre, mais aussi la série télé Columbo. Après le wooden it, vint le hard-boiled, comprenez dur à cuire. Les temps avaient changé. Nous sommes dans les années 20, le monde occidental bascule dans une nouvelle ère, plus urbaine que rurale, avec une explosion démographique et criminelle, la crise de 1929, la montée du capitalisme et les ravages qu'on connaît. Le policier passe au roman noir. Le personnage emblématique est celui du détective, on y traite des questions de sexe, de violence, de corruption, d'alcoolisme, le sujet est la réalité sociale et la morale en prend un bon coup dans les gencives.